ESS, trois lettres pour un concept qui regroupe bien plus de réalités. L'économie sociale et solidaire, une mode pour certains, un prétexte pour d'autres, du greenwashing pour les avis les plus virulents, mais il s'agit bien là d'une autre manière d'envisager notre rapport à l'argent. Pourtant, on parle aussi de finances, d'emploi, de consommation ou d'entrepreneuriat. En revanche, ici, les adjectifs social et solidaire ne semblent pas accessoires, au contraire, ils sont primordiaux. L'économie prend ainsi une autre dimension avec des effets très encourageants. Notez qu'en 2015, 46% des emplois créés en Bretagne étaient liés à l'ESS d'après les chiffres de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Un développement également marqué par un intérêt politique de plus en plus visible. Aujourd'hui, il existe un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Mais derrière cet enthousiasmant constat, quelles applications concrètes sur le terrain? Quels critères objectifs pour désigner l'aspect social et solidaire d'une pratique? Expériences avortées, précarité, coexistence avec l'économie dite traditionnelle, l'ESS peut-elle vraiment s'imposer et, soyons fous, changer nos vies? Réponse tout de suite dans Chercheurs en Ville. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Chercheurs en Ville. Notre invité du jour est Pascal Glémin. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion et en économie sociale et solidaire à l'université Rennes 2. Vous répondrez aujourd'hui aux questions de Xavier de Bontrid. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar, bonjour.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, Xavier, c'est à vous.
Merci Renan. Ben dans votre lancement, vous avez posé de très nombreuses questions. Ça tombe bien parce que c'est aussi le sous-titre du livre qu'a publié notre invité l'année dernière. Entreprise solidaire, l'économie sociale et solidaire en question, avec un S à question. On en a effectivement beaucoup, Pascal Glémin, à vous poser des questions sur ce concept d'économie sociale et solidaire, d'ESS, d'économie circulaire. On entend aussi ce terme utilisé à plusieurs reprises. On a envie, grâce à vous, de mieux comprendre ce phénomène, d'en définir la périphérie, le périmètre, de savoir aussi comment les gens travaillent dans cette nouvelle économie. Est-ce que c'est ça qui va sauver et les emplois et la planète? Bref, beaucoup de questions. Ma première, elle est toute simple. Comment un chercheur en économie, comme vous l'êtes, enseignant à Rennes 2, s'est tout d'un coup passionné pour, j'allais dire, une discipline peut-être un petit peu à la marge de du corpus de sciences économiques traditionnelles?
Eh bien, mon entrée en économie sociale et solidaire date de mon élection comme administrateur dans une caisse locale de crédit mutuel lorsque j'étais étudiant en troisième cycle.
Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit, effectivement.
En disant ça, vous faites d'ailleurs référence au crédit mutuel, à ce modèle coopératif breton qui est très très développé. On y reviendra parce qu'il y a peut-être aussi une relation à explorer entre le territoire, la Bretagne, Rennes, et puis ce modèle économique. Donc vous l'avez expérimenté, j'allais dire, de l'intérieur. Au départ. C'est ça qui vous a donné le goût de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait.
C'est de comprendre est-ce qu'il existait des modes, pas alternatifs, mais d'altérité de l'économie dans notre société contemporaine, c'est-à-dire des modes où les organisations étaient au service de la société, justement des territoires, et de regarder effectivement leurs impacts, ou plutôt comment elles participaient aux dynamiques sociales et territoriales, ces organisations d'économie sociale. Solidaire.
Alors mon complice dans cette émission, Monsieur Lebart, vous allez pouvoir, de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, apporter des compléments et poser une première question.
Oui, parce qu'évidemment, quand on dit économie sociale et solidaire, ça résonne à nos oreilles comme quelque chose d'alternatif. Vous avez déjà utilisé le terme. Mais est-ce qu'on peut risquer une définition qui ne soit pas simplement une définition en creux? C'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, ça n'est pas l'économie ordinaire capitaliste telle qu'on la connaît. Et est-ce qu'on peut essayer, surtout quand on est chercheur en sciences sociales, de trouver une définition un petit peu solide?
Merci Christian pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et bien nous éclairer là-dessus.
Alors, je pense qu'il faut commencer par l'expression même économie sociale et solidaire, qui, à mon sens, est une construction politique, dans la mesure où on a une association de deux mondes. L'économie sociale, donc, qui initialement a été définie par rapport à des statuts juridiques d'organisation. C'est-à-dire qu'on a défini l'économie sociale au début du XXe siècle par le fait qu'il existe des associations, des mutuelles, des coopératives. Et on ne parlait pas encore de fondations. Les fondations sont venues plus tard, à la fin du XXe siècle. Donc, en fait, on a une économie qui est portée finalement par des organisations qui ont des statuts qui leur imposent un certain nombre de contraintes de fonctionnement, donc qui sont bien au service de la société, qui sont aussi des organisations qui expérimentent beaucoup. Il ne faut pas oublier que, par exemple, tout ce qui est sécurité sociale, etc., a été expérimenté bien avant par les sociétés de secours mutuels, par exemple, au XIXe siècle, les banques au service de la société donc ont été expérimentées aussi en milieu rural et en milieu urbain et partout en Europe par ces caisses locales dites de crédit mutuel ou de crédit agricole mutuel à l'époque. Et puis, il y avait toutes les coopératives de producteurs, toutes les coopératives de consommateurs qui faisaient qu'effectivement, une bonne partie de notre économie au service de la société était portée par ces organisations singulières qui justement ne recherchent pas le maximum de profits mais qui recherchent à être pérennes dans le temps.
La question de la durabilité, c'est ça, c'est important. Christian Labarthe, vous vouliez rebondir.
Oui. Est-ce qu'il y a une genèse idéologique pardon, de l'économie sociale et solidaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver des racines philosophiques, idéologiques, politiques ?
On connaît les grands penseurs économiques.
Alors, évidemment, il y a Charles Gide, au début du XXe siècle, il y a aussi tout le mouvement solidariste qui, avec Le Play, un certain nombre d'auteurs comme ça, qui justement caractérise la solidarité, non pas sous le biais de la charité, comme on a souvent tendance d'ailleurs à résumer l'économie sociale et solidaire. Donc derrière solidaire, on a souvent la traduction.
C'est pas les dames patronesses.
Exactement. Donc ce sont la solidarité, c'est in solidum. À l'époque, c'est consolider ce qui existe déjà pour pouvoir effectivement aller plus loin, rebondir. Donc, par exemple, pour des entreprises coopératives, le but, c'est effectivement, quand une entreprise est en difficulté, il faut la consolider pour préserver les emplois, voire en créer. Donc, c'est pour ça qu'elles ont des règles de gestion qui sont assez spécifiques. Pour tout ce qui est des banques solidaires, donc ça peut remonter à l'époque des bons de piété, par exemple, donc bien avant les crédits mutuels et les crédits coopératifs, l'idée, c'était d'intervenir pour lutter contre l'usure, la pratique de l'usure, mais aussi de consolider la situation des personnes, considérant qu'une personne.
Le monde qui était, on rappelle son fonctionnement, on apportait un bien qui nous appartenait et en contrepartie, on avait.
Ce sont les crédits, les crédits municipaux de nos jours. Quoi.
Voilà. On va chez ma tante, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Ou au clou, selon la couche, la classe sociale à laquelle on appartient. Mais effectivement, ces banques-là ou ces établissements bancaires et d'aide sociale, de crédit et d'aide sociale, étaient là pour consolider les situations des personnes. Donc, parce qu'il était dit que relever des personnes qui étaient à terre était beaucoup plus indignant et beaucoup plus difficile que d'essayer de les consolider debout. Et donc la solidarité n'est pas charité. La solidarité est consolidation de situations parfois difficiles.
Fin de mois difficile, besoin d'argent tout de suite. Quand on est dans la galère, une seule adresse, ma tante. Ma tante ou le monde piété, ce sont les surnoms du Crédit Municipal de Paris, le spécialiste des prêts sur gage. Contre un objet de valeur mis en dépôt, on peut obtenir de l'argent en quelques minutes. Ça peut aller de 30 euros à plus d'un million d'euros. L'établissement est ouvert 6 jours sur 7 et la salle d'attente ne désemplit pas. Et avec la crise, c'est pire.
On entend dans votre analyse déjà peut-être les prémices d'un raisonnement purement économique avec une validation de présupposés, d'une question aussi de rentabilité, de solidité dans la durée. C'est un modèle économique aujourd'hui, on peut le considérer comme tel, économie sociale et solidaire.
C'est un modèle d'autant plus que vous avez utilisé le bon terme, c'est-à-dire rentabilité et pas profitabilité. C'est-à-dire ce qui distingue l'économie sociale et solidaire de l'économie dite capitalistique, même si j'aime pas trop ce terme.
Mais au moins, il a le mérite
mais
de
voilà,
la
compréhension. Il peut être clair. Mais en fait, les organisations d'économie sociale et solidaire donc, ont pour vocation d'être rentables, c'est-à-dire pour être pérennes dans le temps, assurer leur mission d'intérêt général et au service des évolutions des territoires, qu'ils soient des construits sociaux, des construits politiques, des espaces, etc. Donc effectivement, l'idée, c'est bien de... j'ai perdu le fil de mon idée. C'est bien effectivement d'être rentable pour être pérenne. Et si on fait des excédents de gestion, alors on fait un peu de poésie, hein, mais on fait un peu de profit, en fait, ils doivent être réinvesti au service de l'organisation et au service de la société et des territoires.
Et non pas de l'enrichissement
personnel
des acteurs.
C'est-à-dire qu'il
n'y
a pas d'actionnaire à rémunérer, ce qui peut être la différence entre une entreprise dite capitalistique et une entreprise coopérative, mutualiste ou associative.
Est-ce que du coup, ça lui donne une solidité plus grande, une robustesse, comme on dit?
Alors, ça lui donne sans doute une robustesse plus grande, puisque effectivement, un certain nombre... bon nombre de coopératives sont encore pérennes aujourd'hui avec plus d'une centaine d'années d'existence dans le secteur agricole ou dans les mutuelles d'assurance ou les banques qu'on a citées tout à l'heure, coopératives. Maintenant, la question de la gouvernance se pose et est complexe dans la mesure où elle est démocratique d'une part. Donc en fait, comment assurer la démocratie aujourd'hui dans des organisations comme celle-là où il y a un homme, une voix, comme on le dit, et d'autre part, où finalement l'entrepreneur, il est pluriel, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des coopérateurs, à des administrateurs d'associations, employeurs ou gestionnaires. Donc on n'a pas une tête de chef d'entreprise détenant les capitaux de l'entreprise ou la vision managériale du manager d'une entreprise sous statut actionnarial.
Alors si vous nous rejoignez sur Canal B, hein, je rappelle que nous avons pour invité aujourd'hui Pascal Glemin qui nous parle de l'économie sociale et solidaire. Et pour justement approfondir ce concept, une question supplémentaire de Christian Lebart.
Oui, en vous entendant, on voit bien que l'économie sociale et solidaire est aussi ancienne que le capitalisme et elle en est en quelque sorte le volet critique ou l'utopie un peu inversée. Ma question serait la suivante. Est-ce que l'économie sociale et solidaire n'est pas un peu ébranlée par ce qu'on appelle parfois le néo-capitalisme, c'est-à-dire des formes très, très, très contemporaines de capitalisme, financiarisation de l'économie, etc. C'est un défi pour l'économie sociale et solidaire. Il y a deux réponses possibles. Soit, justement, il y a encore plus besoin de solidarité et de social dans ce contexte-là, ou est-ce qu'au contraire, du coup, les entreprises qui obéissent à ce schéma ne sont pas un peu ébranlées par les défis du capitalisme?
Alors, vous faites les questions et presque les réponses, mais Pascal Glemin va nous donner sa réponse. On vous écoute.
Alors, il y a deux choses très intéressantes dans votre question. La première, c'est qu'effectivement, capitalisme et mouvement coopératif sont nés quasiment en même temps, puisque, en fait, à l'époque de Charles Gide, dont je parlais tout à l'heure, on crée le mouvement coopératif contre le capitalisme. Et derrière, il y avait les mouvements ouvriers, les mouvements paysans, agricoles, qui se regroupaient justement pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, donc de la production à la distribution, et que la coproduction bénéficie à la double qualité à la fois de bénéficiaires et de contributeurs de ces dispositifs. Et aujourd'hui, en fait, là où on est bousculé un petit peu dans l'économie sociale et solidaire contemporaine, c'est qu'en fait, il faut faire la distinction entre la figure de l'entrepreneur social et des entreprises d'économie sociale et solidaire. L'entrepreneur social a une ambition sociétale et s'approprie un certain nombre de services qui peuvent devenir marchandisés aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le cas de l'autopartage. Par exemple, ici en Bretagne, on a Ehop.
Alors voilà, donc, je trouve que c'est très bien que vous puissiez nous donner des exemples concrets, parce que nos auditeurs se repèrent un petit peu quelles sont les figures. Par exemple, vous citez Ehop, donc, c'est le covoiturage.
C'est du covoiturage, tout à fait, donc qui est associatif et qui propose déjà de façon solidaire l'accompagnement de personnes qui sont en difficulté de moyens de transport, par exemple d'aller à un rendez-vous pour trouver un emploi ou pour aller chez les médecins, etc. Donc cette association, elle a été créée justement pour mettre
la mobilité, plus, hein,
oui,
ça
tout à fait, pour proposer le service de transport à tout type de personnes, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son revenu, de façon à ce qu'effectivement elle puisse satisfaire un besoin de mobilité à un moment donné. Évidemment, à côté, vous avez Uber. Là où on a une situation où on marchandise le service de transport ou la mise à disposition de matériel de transport. Donc, du coup, on se repose sur le modèle de l'auto-entrepreneur.
Force est de constater qu'Uber est quand même plus connu qu'Hop. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui marche moins bien que l'autre ?
Est-ce que la connaissance est signée de qualité, je ne sais pas. C'est une excellente question. EHOP, en fait, fonctionne encore sur le territoire sans avoir justement peut-être à communiquer sur son activité au quotidien. Donc, c'est une association qui est pérenne aujourd'hui, qui fonctionne.
Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias que ça ne fonctionne pas et que ça ne marche
Exactement.
Pas.
Exactement. C'était un petit peu c'est un petit peu le problème aussi d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup au début du XXe siècle. Parce que, par exemple, dans les coopératives d'habitants, etc., c'était 50% du logement social.
Donc, au début du XXe siècle, j'ai bien entendu. Il y a 100 ans.
Il y a 100 ans. Et donc, du coup, on avait à peu près 50% du logement social qui dépendait des coopératives d'habitants, etc. Aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir ou de découvrir un nouveau secteur. Mais en fait, on réhabilite un certain nombre de choses qui existaient à l'époque. Là, on a une parenthèse entre le 1945 et 1975-80, effectivement, là, on a eu
oublié,
économie sociale qui a été oubliée parce que, en fait, c'était un peu la béquille de l'État.
Voilà. Oui.
Donc, c'était les Trente Glorieuses et finalement, le secteur associatif était là pour suppléer l'État dans la mise en place de ses politiques sociales. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle l'Association d'économie sociale en France qui repose sur les politiques de l'emploi, les politiques de la famille, les politiques du vieillissement, etc., sans parler de statut, etc. Donc, en fait, c'est là où parfois on peut avoir confusion entre économie sociale comme politique et économie sociale comme enveloppe d'organisation au service de la société.
Alors, de ce point de vue-là, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a actuellement, ou il y a eu en tout cas, un secrétariat d'État dédié à cette thématique. Benoît Hamon a été titulaire à un moment de cette responsabilité. Alors, quid de cette mise à l'agenda ? Est-ce que c'était un vrai retour ou c'était juste simplement de la communication politique ?
Une question de sciences politiques par un spécialiste de la science politique.
C'était, à mon avis, une institutionnalisation, parce que c'était même plus qu'un secrétariat d'État, c'était un ministère délégué à l'économie sociale et solidaire, alors qu'avant, nous étions sur des secrétariats d'État, effectivement, avec Guy Asquette en particulier. Et puis, nous avions, sur toute la période, on va dire, des 40 piteuses dans lesquelles nous sommes, pour citer Christian Stoffes. En fait, on avait déjà des délégations interministérielles à l'économie sociale qui étaient devenues, sous M. de Villepin, des délégations interministérielles à l'innovation sociale et à l'économie sociale. Donc on voit aussi
la sémantique a
son importance. Et à l'époque de la DIESES, donc la seconde que je viens de citer, il y avait aussi le Haut Commissariat aux Solidarités Actives avec Martin Hirsch. Et il y avait toujours quand même
personne n'a croisé les solidarités passives, d'ailleurs, soit dit en passant.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'il y a un effet d'affichage qui est positif pour des politiques, y compris à droite.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, même aujourd'hui, donc si on regarde depuis les dernières élections régionales, en particulier la restructuration des régions, il y a un certain nombre de régions qui traditionnellement soutenaient l'économie sociale et solidaire et qui s'en sont un petit peu éloignées. Il y en a d'autres, par contre, où l'économie sociale et solidaire était un petit peu un pis-aller, qui montent en puissance. Donc c'est le cas, par exemple, de la Normandie, et c'est un petit peu, malheureusement, la région de l'Occitanie qui a mis un petit peu entre parenthèses une économie sociale qui est pourtant très importante, ou la région Rhône-Alpes aussi.
Nagia est agent d'entretien à Rennes depuis 4 ans, un emploi stable bien que partagé entre plusieurs associations. C'est le GDES 35, un groupement d'employeurs associatifs, qui lui a proposé un CDI en aménageant son emploi du temps.
L'objectif était de répondre à des besoins d'associations pour structurer l'emploi et proposer en fait à des salariés un temps complet en CDI et également professionnaliser des fonctions au sein d'associations.
Pascal Glémin, vous introduisez à l'instant même une dimension très intéressante quand on, justement, quand on observe cette fameuse économie sociale et solidaire, c'est la question du territoire et de l'ancrage sur un territoire de ces activités. Est-ce qu'il y a des terreaux qui sont plus favorables que d'autres à cette manière de faire l'économie ?
Alors, d'une part, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que le territoire a une importance fondamentale en économie sociale et solidaire, puisqu'en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est toujours défini comme au service d'un projet de territoire.
Elle n'est jamais hors sol.
De territoire de projet, exactement. Alors, l'ancrage local, effectivement, un certain nombre de ces entreprises sont dites, ou de ces activités sont dites non délocalisables. Donc, effectivement, ça rassure dans une période un peu tourmentée de marché du travail et d'activités économiques qui sont quelquefois un peu perturbées au niveau industriel, commercial, etc. Mais il y a des terreaux effectivement qui sont très importants. Par exemple, si on regarde le champ de la finance solidaire, on a des marquages même dans la sémantique. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la région Corse, on a Femoukoui. Femoukoui, c'est de la finance solidaire. Des Corses pour les Corses, ça signifie faire ici. On a Ericoa dans le Pays Basque, qui est aussi de la finance solidaire, de l'épargne solidaire, au service du financement de l'emploi local, des entreprises locales pour les Basques. Et puis, on a aussi en Bretagne, donc un mouvement qui a été très important, qui était le mouvement des Cigales, donc les clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire.
Voilà, c'est ça, c'est donc cet acronyme-là qu'il faut retenir.
Qui est l'héritage, en fait, d'une autre association de 1982 qui s'appelait Aldea, donc association locale pour le développement d'une économie alternative. Et Aldea, en espagnol, ça signifie petit village. Et donc, en fait, c'était travailler justement au niveau local, ensemble, faire ensemble, au service d'un projet de territoire. Et donc, le mouvement des Cigales est très fort en Bretagne. Il s'est même exporté à un moment. Coup de pouce, Roumanie est partie de Bretagne. C'est-à-dire que c'était comment on pouvait travailler avec d'autres communautés locales à l'échelle européenne.
Y compris à l'international, c'est ça ?
Donc, y compris à l'international, ce qu'on nous oublie souvent, pour pouvoir effectivement avoir des logiques d'investissement en local, de l'épargne dans l'économie réelle. C'est-à-dire que si on essaye de réinvestir dans l'économie réelle l'essentiel des investissements.
Il n'y a pas un risque quand même à être un petit peu trop à l'étroit à l'intérieur de frontières administratives ou territoriales, en disant, vous avez cité les exemples, hein, les Basques qui parlent aux Basques, les Corses avec les Corses, les Bretons avec les Bretons. Bon, le grand vent de la mondialisation est quand même passé par là. On travaille un peu avec tout le monde aujourd'hui, non ?
Mais
c'est pas une limite ?
Mais non. En fait, au contraire, les frontières sont des zones de contact et ne sont pas des zones de conflit en économie sociale et solidaire. Donc, pour parler un petit peu des Corses ou des Ericoa dans le Pays Basque, en fait, ils acceptent aussi de participer à l'hybridation de financement, par exemple, de projets en Bretagne. Alors bon, il y a des identités territoriales et culturelles.
Il y a quand même derrière tout ça, il y a un peu l'utopie personnaliste de communauté, enfin de gens qui se connaissent et voilà. C'est contre l'anonymat d'un capitalisme.
Complètement.
Hors sol,
ça, c'est vrai que l'aspect communautaire, d'ailleurs, je pense qu'on l'a pas assez travaillé au niveau des sciences humaines et sociales. Nos amis québécois l'ont investi depuis un peu plus longtemps que nous, puisque par exemple sur le secteur de la santé, il y a beaucoup de cliniques coopératives qui sont créées par des communautés locales. Donc il y a effectivement ces mouvements communautaires qu'il faudrait interroger. Est-ce que ces mouvements communautaires font des micro-sociétés locales ? C'est une autre question qu'il faut se poser. Et de savoir effectivement si ces micro-sociétés locales peuvent trouver leur similaire à l'échelle internationale. Donc la question vraiment se pose quoi, pour nous.
Eh bien, on va continuer d'explorer toutes ces pistes passionnantes avec vous, Pascal Glémin, autour de ces problématiques d'économie sociale et solidaire. Mais pour l'instant, on fait une petite pause musicale. On écoute un morceau du groupe Détroit Social Club. Il s'intitule « Rivers and Rainbows ». C'est maintenant.
City on a rainbow, city on a mountain, city on a river today. City on a rainbow, city on a mountain, city on a river
Détroit Social Club Rivers and Rainbows à l'instant dans Chercheurs en Ville. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'économie sociale et solidaire. Dans la première partie de l'émission, on a entendu que le concept n'est pas neuf. Les premiers penseurs étaient actifs au début du XXe siècle. Les banques coopératives que l'on connaît bien ici en Bretagne participent aussi à ce mouvement de l'ESS. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme s'est popularisé et offre peut-être une autre image davantage ancrée dans notre XXIe siècle avec des entrepreneurs dont on va parler dans cette deuxième partie, des entrepreneurs parfois pas vraiment préparés à ces responsabilités, nous en parlerons également. Et puis on se demandera si au fond, quand on est chercheur en économie sociale et solidaire, on n'est pas aussi à la fois un militant. Notre invité Pascal Glémin, enseignant-chercheur à Rennes 2, répond aux questions de Xavier de Bontride et Christian Lebar.
Pascal Glémin, on poursuit notre exploration de l'économie sociale et solidaire avec vous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Rennes 2, spécialiste de cette discipline hein, qui est évidemment rattachée aux sciences économiques, mais avec, vous l'avez rappelé dans la première partie de cette émission, avec des différences très significatives. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu encore mieux la connaissance de cette économie. Vous en avez rappelé les grands principes. Est-ce que les hommes et les femmes qui s'investissent dans cette manière de faire de l'économie un peu autrement ont un profil particulier ? À quoi ils ressemblent ?
Alors souvent, ce sont des personnes qui sont pluri-engagées dans la société. Donc souvent, des implications associatives multiples. Donc on retrouve souvent des personnes qui sont dans au moins deux associations engagées, parfois à titre d'élus responsables, en fait de bénévoles responsables dans les conseils d'administration et des bureaux. Donc il y a quand même une certaine conscientisation et d'implication citoyenne au service des autres. Et puis, on retrouve aussi de plus en plus aujourd'hui une montée en puissance des diplômés. Ce n'était pas forcément le cas auparavant, c'est-à-dire que initialement, on avait beaucoup d'implications
d'autodidactes,
de personnes qui montaient dans le secteur bancaire coopératif, par exemple. Donc, on avait le crédit curé et le crédit bouseux, si je puis me permettre, puisque c'était comme ça qu'il était appelé à l'époque. Donc en fait, on avait des agriculteurs qui montaient en compétences dans la banque puisque en fait ils décidaient ensemble de l'affectation des crédits, etc.
Puis d'un autre très bonne côté, école pour apprendre les rouages de cette
économie.
Tout à fait,
exactement. Et puis au niveau des crédits mutuels, donc du coup c'était plutôt autour de la paroisse. Donc c'était plutôt le curé, les citoyens,
les bonnes œuvres également.
Les bonnes œuvres, voilà, qui étaient dans cette mouvance-là, puisque c'était aussi de proposer de la banque à des petits, finalement, des petites gens, comme on pourrait dire aujourd'hui, pas beaucoup de revenus, mais qu'on peut bancariser, qu'on peut apprendre aussi à se familiariser à l'argent, à la relation à l'argent, etc. quoi.
Christian Lebart.
Oui, il y a évidemment un lien fort, on l'a laissé entendre tout à l'heure, entre l'économie sociale et solidaire d'un côté et le catholicisme social de l'autre. On retrouve ça dans le profil, encore aujourd'hui, dans le profil de ceux qui...
Alors,
qui se mobilise sur ces questions ?
On peut retrouver ça en particulier dans le microcrédit social ou le microcrédit personnel garanti, où là, effectivement, on a des associations comme Caritas, donc qui est très impliquée dans le microcrédit social. Les crédits mutuels aussi avaient un peu internalisé ces dispositifs avec ce qu'ils appellent le crédit accompagné, donc au service de leurs sociétaires, donc pour ne pas les laisser tomber dans... les cercles vicieux de la précarisation et éventuellement du surendettement social. Donc effectivement, il y a ces mouvements-là, plutôt dans la relation à l'argent d'ailleurs, qui est assez intéressant, et un peu moins, par contre, dans ce qui a trait aux écocycleries ou aux ressourceries, où là, on trouve plutôt des militants politiques, laïques, sur les territoires. Donc,
voilà. Alors voilà, vous répondez presque par anticipation à la question que j'avais envie de vous poser, Pascal Glémin, est-ce que l'ESS a une couleur politique ? Est-ce que l'ESS est de gauche, par exemple ? Plutôt ?
Pas forcément, en fait. C'est assez varié. Alors, il est vrai que par rapport à certaines valeurs, certains principes, certaines façons d'envisager la société, sans doute que... politiquement parlant, le curseur est plutôt gauche, centre-gauche.
Oui, quand même.
Puisque les associations plus caritatives, donc du coup, elles sont plutôt stigmatisées, droite, voire droite assez marquée. Donc du coup, effectivement, on a là sur le curseur de l'extrême droite à l'extrême gauche, on peut trouver des représentations ou des appropriations de soit des choses un petit peu plus caritatives, soit effectivement des choses qui relèvent plus de l'économie solidaire que de l'économie sociale.
Soutenir leur entreprise coûte que coûte, c'est l'objectif d'une partie des salariés d'Ecopla. Située à Saint-Vincent-de-Mercuse, l'entreprise spécialiste des barquettes en aluminium, qui avait pour clients notamment Senoble ou Brossard, est en redressement judiciaire depuis le 1er mars. Les machines ne tourne pas. Un collectif veut pourtant redémarrer la production et lance pour cela une demande de financement participatif.
En tout cas, le sujet intéresse les politiques et on l'a vu encore très récemment dans l'actualité. L'économie sociale et solidaire, tout d'un coup, peut faire l'objet de bien des sollicitations et de manifestations d'intérêt. Je sais que Christian Lebart, vous avez observé une entreprise dont on a beaucoup parlé là, ces derniers temps, Ecopla. De quoi s'agit-il ?
Oui, donc l'affaire Ecopla est, me semble-t-il, assez révélatrice des débats sur ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, une entreprise capitaliste classique qui est en faillite, pour dire les choses brutalement, et les salariés proposent de s'organiser en coopérative pour reprendre...
C'est une entreprise d'aluminium, ils fabriquent des barquettes
d'aluminium, oui, installées en Isère, à côté de Grenoble. Et donc les salariés, menacés de licenciement, proposent de s'organiser en coopérative, ce qui renvoie à une tradition... voilà, on pense à Libre dans les années 70, etc. Alors qu'en est-il ? Est-ce que, alors que le tribunal de commerce, je crois, a priori, n'était pas très favorable à cette orientation. Alors, qu'en est-il ?
Alors, donc effectivement, on est dans une tendance un peu nouvelle de l'appropriation du statut de coopérative pour sauver un certain nombre d'entreprises. Donc, on n'est pas dans la bonne appropriation du modèle coopératif.
C'est la carte de la dernière chance.
Voilà, c'est un peu changer le pansement, et alors qu'il faut penser le changement, comme dirait Pierre Dac. C'est pas forcément un universitaire très connu, mais sa phrase est assez intéressante quand même. Et donc du coup, on a eu sur ce dernier 20e siècle ou le début du 21e siècle effectivement un certain nombre d'exemples. C'est le cas de Cifrance par exemple, qui a été repris aussi sous forme coopérative,
la compagnie de transport, navigation Transmanche,
hein. Tout à fait, qui fonctionne relativement bien aujourd'hui et qui est en phase éventuellement de récupérer un certain nombre de bateaux sous sa propriété. Donc ça, c'est un cas qui a fonctionné.
Il y a eu le Jabi aussi.
Il faut effectivement penser à le Jabi.
Moins bien terminé, je crois.
Alors ça s'est beaucoup moins bien terminé. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont repris le Jabi sous...
Entreprise de confection de lingerie féminine.
De lingerie féminine, avec un très grand savoir-faire, des marchés de luxe, etc. Donc qui a été repris sous la scope Les Atelières. Qui en fait a eu des problèmes de bouclage de son modèle financier, c'est-à-dire finance et financement d'économie sociale aujourd'hui, c'est compliqué. Et
les banques n'ont pas suivi, c'est ça ?
Les banques n'ont pas suivi, il leur manquait 30 000 euros effectivement pour boucler l'affaire.
Et là, le crowdfunding qui est à la mode n'a pas fonctionné.
Elles sont allées sur le crowdfunding, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Donc malheureusement, il y a aussi des exemples malheureux de ces reprises d'entreprise par les salariés. Ça suppose effectivement derrière un accompagnement à l'entrepreneuriat collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre les codes du management, mais aussi s'approprier les outils de gestion dans une gouvernance qui est plurielle. L'accompagnement est très important dans le cadre des reprises d'entreprise par les salariés. C'est-à-dire que si tel est le cas, il faut que derrière, on laisse effectivement, comme on est dans une économie de projet, donc ce sont des projets à moyen et long terme, donc à 18 et 24 mois pour voir si effectivement la reprise est possible. possible. Et souvent, ce temps-là est trop long ou trop court, selon les cas. Mais ça nécessite effectivement un accompagnement, ce qu'on a oublié d'ailleurs.
Alors, très concrètement, quand on parle d'accompagnement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que les acteurs, les salariés, en l'occurrence, si on s'intéresse à une reprise d'entreprise par les salariés, est-ce qu'ils doivent aller sur les bancs de la fac ou d'une école de commerce ou bien suivre des cours du soir ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a le réseau des SCOP qui est là pour les accompagner, pour leur donner un certain nombre de compétences et de connaissances de base. Ceci dit, il serait peut-être intéressant, comme ça se passe par exemple au Royaume-Uni, quelqu'un qui veut devenir en responsabilité dans une association et être élu, en fait, il faut qu'il passe par les bancs de l'université et il passe une sorte de certificat de capacité, comme on dit en médecine, pour pouvoir effectivement comprendre un petit peu les enjeux, les outils de gestion dont il aura besoin pour exercer pleinement son rôle d'élu. Donc peut-être qu'effectivement au niveau des universités, il y aurait possibilité pour ces salariés d'assister à des modules de management des entreprises coopératives en l'occurrence.
Alors on entend bien, hein, c'est une discipline qui s'apprend, ça signifie donc qu'elle s'enseigne, et je crois que vous aviez une question là-dessus, Christian Lebarthe.
Oui, une question sur ce qu'on pourrait appeler la posture du chercheur. Vous parlez de l'économie sociale et solidaire avec passion, c'est un sujet passionnant, mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque de superposer, voire de confondre recherche scientifique avec tout ce que ça suppose de détachement, de distance, de refroidissement des objets, etc. Et puis militantisme, car l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une cause qu'il faut défendre et qui a besoin d'universitaires pour la défendre. Alors comment on fait pour ne pas confondre les deux casquettes ? Comment on fait pour que...
Universitaire militant, comme dit l'assureur ?
En fait, vous posez une excellente question sur la posture du chercheur en économie sociale et solidaire. Donc, il doit faire effectivement cet effort significatif de distanciation critique de son objet, donc de façon à ne pas se transformer ni en expert ni en consultant de, ni effectivement en militant stricto sensu de son objet de recherche. Donc c'est pourquoi pour comprendre l'économie sociale et solidaire, il faut faire l'effort d'être au cœur des sciences sociales. C'est-à-dire qu'en fait, vous me présentiez tout à l'heure comme relevant des sciences économiques, certes, mais je relève aussi des sciences de gestion. Je suis d'abord maître de conférence en habilité à diriger des recherches en sciences de gestion, même si d'un autre côté, je suis docteur HDR en sciences économiques. Mais donc du coup, il y a l'économie et la gestion que je mets en discussion. Et puis, mon passé professionnel de professeur de sciences économiques et sociales m'a amené aussi à être confronté à la sociologie et aux sciences politiques. Et donc, en fait, l'intérêt de ce parcours-là, c'est que justement, je prends aussi de la distance critique par rapport à la science économique, par rapport à la science de gestion, par rapport à la sociologie, pour essayer de monter en puissance analytique, si je puis m'exprimer ainsi, en économie sociale et solidaire, qui n'est pas une discipline, qui n'appartient à personne. D'ailleurs, longtemps, elle a été appropriée par la sociologie économique. Beaucoup de sociologues ont travaillé sur l'économie sociale et solidaire. Finalement, sciences économiques et sciences de gestion, ils viennent tard, ou ont été fortes dans les années 80 pour les coopératives agricoles laitières. Donc, certains de mes collègues qui sont aujourd'hui retirés de la vie universitaire, mais comme Pascal Perrault, par exemple, ou comme Pierre Mévélec à Nantes, qui ont été... parmi les premiers à travailler sur la comptabilité coopérative en particulier, et d'essayer de voir comment on pouvait les mettre en place. Donc eux aussi étaient relativement engagés déjà à l'époque dans le monde coopératif agricole de par leur passé professionnel et puis aussi par leur militantisme, mais du coup la distance critique était celle de dire mais finalement la comptabilité dont on dispose aujourd'hui ne correspond pas à la réalité, donc qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que chercheurs pour créer critiquer les plans comptables actuels, etc. Donc c'est toute la, enfin c'est complexe et à la fois là on sent qu'on est on est dans un mouvement de distance critique qui pourrait nous amener effectivement vers une posture.
Alors je suis assez d'accord sur le fait que la pluridisciplinarité pardon est probablement la meilleure réponse à cette interrogation. Est-ce que c'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot du réseau régional des chercheurs
tout à fait
en
donc du coup depuis alors il y a deux réseaux donc mais on va parler de celui du Grand Ouest hein. Donc il y a un réseau Grand Ouest de recherche en économie sociale et solidaire donc qui a été créé en 2004 avec le professeur Henri Noguès donc qui était professeur à l'université de Nantes en particulier mais qui avait déjà le souci de rassembler les universités du Grand Ouest donc de Poitiers jusqu'à Brest hein, pour travailler ensemble sur la problématique de l'économie sociale et solidaire, que ce soit avec des regards d'économistes, de gestionnaires, de sociologues, de géographes.
Le fait que ça se passe dans l'Ouest, justement, c'est peut-être aussi l'illustration de l'intérêt porté à ces questions-là sur ce territoire.
Vous avez tout à fait raison. Donc en fait, ce réseau Grand Ouest, aujourd'hui, il est non seulement repéré dans Grand Ouest, mais repéré au niveau national et au niveau européen, puisque nos amis de Belges regardent un petit peu la dynamique que l'on a ici dans le Grand Ouest. Et puis, du coup, on est actuellement en train de formaliser ce réseau de chercheurs en ayant le projet de le transformer en groupement d'intérêt scientifique, Grand Ouest ESS, de façon à continuer à travailler au-delà des frontières et des territoires avec nos collègues de Poitiers, de Bordeaux, de Caen, de Rouen, etc.
Bonjour. Aujourd'hui, les fonctions de la monnaie ou encore à quoi sert la monnaie dans la société actuelle. Tout d'abord, commençons par définir le terme. La monnaie représente un moyen de paiement accepté par l'ensemble d'une communauté.
Alors vous avez évoqué, Pascal Glemin, en répondant à la question de Christian Lebart, la pluridisciplinarité, l'importance accordée aussi à la sociologie dans vos approches, ce qui explique peut-être que lorsque l'on parcourt votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Entreprise solidaire, l'économie sociale et solidaire en question, qui a été publié en 2015 aux éditions des presses universitaires de Rennes, eh bien on ne trouve pas ce que l'on s'attend d'habitude à trouver dans un livre de sciences éco, c'est-à-dire des courbes, des graphiques, des histogrammes. Là, il y a beaucoup de littérature et finalement pas beaucoup de modèles. Est-ce que c'est un frein pour vous faire accepter par les tenants, j'allais dire, orthodoxes de la pensée économique telle qu'on la connaît aujourd'hui ?
Alors, il faut considérer effectivement l'outil statistique et économétrique comme un outil au service de la construction d'une argumentation, d'une thèse, d'une pensée, etc., mais pas comme une finalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous utilisons les techniques quantitatives, mais aussi qualitatives, et quand on utilise les techniques quantitatives, en fait, elles sont confrontées aussi à d'autres méthodes scientifiques, en particulier plus proches du terrain, comme on pourrait dire. Donc, en fait, on va sur des
on
terrains
enquête.
De recherche, on enquête et aussi on construit des données. C'est-à-dire qu'en fait, en économie sociale et solidaire, on ne se contente pas de travailler sur des fichiers INSEE ou des fichiers CLAP qui sont très intéressants, qui peuvent nous donner certains enseignements ou certaines orientations de problématiques ou de questionnements. Mais pour nous, ça ne nous suffit pas. Donc en fait, on va aussi produire des données primaires qu'on va essayer de confrontés à ces jalons qui nous sont apportés par les techniques statistiques ou de théorie des jeux ou d'économétrie, donc que nous ne rejetons pas en tant que tel, mais pour nous, ce n'est pas une finalité. Et ce n'est pas parce qu'on a un résultat économétrique, même si mathématiquement, il est très pertinent et très explicitant et très performant, pour nous, c'est une étape. C'est pas,
et comme on dit en sciences éco, hein, toute chose égale par ailleurs, ça montre bien que parfois, la vraie vie est un peu absente.
Nous, on
du
est
raisonnement.
Plus mutatis mutandis.
Voilà, c'est Eris Paribus, hein, voilà. Toute chose égale par ailleurs. Justement, est-ce que vos travaux sont progressivement reconnus pour ce qu'ils doivent être par la communauté scientifique ? Est-ce que, rêvons un peu, un prix Nobel de sciences d'économie dans le champ de discipline de l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on peut l'envisager un jour ?
Alors, le prix Nobel d'économie n'existe pas. C'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Vous avez raison.
Donc il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Il y en a en médecine, en littérature, dans la paix.
Ben,
mais
vous voyez,
il y a
une grande distinction de cette nature internationale.
Pourquoi pas ? Il y a eu quelques... Donc, j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de travailler avec Elinor Hörström, qui a eu ce prix de la Banque de Suède. Donc, effectivement, il y a eu de temps en temps quelques petites... reconnaissance ou
pas suffisante quand
pas
même,
suffisante, puisqu'en fait on est sur des galères de querelles, en particulier en sciences économiques aujourd'hui, alors que la pluralité des sciences économiques, enfin si on lit Amartya Sen en particulier, donc l'économie est une science morale, dit-il, donc ça nous interroge effectivement sur la pluralité de la pensée en économie aujourd'hui.
Vous avez vu comme nous, hein, la polémique là qui s'est instaurée en cette période de rentrée sur justement ce qui est la vraie science économique et ce qui ne la serait pas. Vous vous situez comment par rapport à ça ? J'imagine que ça doit vous donner des poussées d'urticaire, non ?
C'est assez... ça donne des poussées d'urticaire, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une position d'exclusion d'un certain nombre de penseurs ou de chercheurs. Donc, c'est pas comme ça qu'on construit... le débat et qu'on construit la science. Donc du coup, effectivement, c'est quand même relativement problématique, d'autant que affubler ses collègues de négationnisme, c'est très grave. C'est très grave et c'est vraiment très grave.
On voit et on entend la colère rentrée qui est la vôtre à l'évocation de ce sujet. Encore peut-être une question sur cet enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manière de regarder l'économie est enseignée dans les... Vous avez été professeur de sciences économiques et sociales. Au lycée, est-ce que ça fait partie intégrante de la manière dont on raisonne sur ces questions-là ou ça reste encore un peu à la marge ?
Malheureusement, ça reste encore à la marge. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui avaient été engagés avec Jean-François Draperi ou Daniel Demoustier, qui sont deux collègues de Paris et de Grenoble, sur effectivement la mise en place de chapitres sur l'entreprise coopérative ou l'entreprise associative. Ça a été une expérience, mais ça n'a pas vraiment donné de suite, puisqu'en fait, on en reste encore à une vision, on va dire, bicéphale, avec une économie privée lucrative d'un côté et une économie publique de l'autre. Sauf qu'en fait, on a oublié qu'il y a trois pieds dans l'économie et qu'il y a une économie privée non lucrative aussi qui existe. Et donc, on ne fonctionne pas sur deux jambes, mais sur un trépied, quoi.
Et ça tient mieux, généralement. Christian Lebart.
Est-ce que l'économie classique n'a pas pour elle de s'adosser à des modèles qui sont intellectuellement fascinants, alors que, si je me fais l'avocat du diable, l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle est plus soucieuse de la réalité, parce qu'elle est pluridisciplinaire, parce qu'elle prend un peu toutes les dimensions en compte de la vie sociale, n'est pas un peu condamnée à une sorte d'empirisme moins fascinant pour l'esprit ?
Je pense que vous avez effectivement bien synthétisé la posture aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire et d'un certain nombre effectivement de nos collègues qui considère que cette économie est moins scientifique que les autres parce que du coup elle est plus difficilement modélisable. Moi je le vois en tant que chercheur en microfinance, c'est-à-dire qu'en fait effectivement on peut modéliser avec l'économétrie un certain nombre de choses sur la microfinance et sur sa soi-disant possibilité de lutte contre la pauvreté. Donc ça pose plusieurs questions. Est-ce que quand on modélise la microfinance au Ghana par exemple à partir des statistiques nationales on rencontre de la réalité sans doute au niveau économétrique oui aussi, puisqu'on aura le PIB, on aura un certain nombre d'agrégats, sauf que effectivement la réalité est plurielle sur le terrain de cette microfinance, donc du coup elle est plutôt microéconomique que macroéconomique, alors que l'économie contemporaine a quand même une vision un peu plus macroéconomique et on a perdu les fondements microéconomiques de la société, des tissus productifs locaux, donc de l'entreprise finalement.
Alors Pascal Gleyman, nous arrivons bientôt au terme de cette émission de Chercheurs en Vrille, Chercheurs en Ville, et nous on ne part pas du tout en vrille avec vous au contraire hein, sur ces questions d'économie sociale et solidaire. quelles sont les perspectives aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des champs d'analyse, des grands sujets qui vont vous mobiliser au regard justement des enjeux contemporains et sur lesquels il va falloir qu'on soit attentif en suivant ces questions parce qu'elles vont devenir très prégnantes?
Alors, il y a un sujet là sur lequel on travaille au niveau international qui est un sujet qui nous est un objet de recherche qui est l'entreprise sociale apprenante. Qu'est-ce que l'entreprise sociale est
apprenante?
Apprenante.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc justement, c'est ce qu'on essaye de trouver, c'est-à-dire on travaille en particulier sur le champ de l'insertion par l'activité économique, donc qui est très bousculé par les politiques globales aujourd'hui, et puis sur les trajectoires, les carrières, etc., des personnes qui sont confrontées à l'éloignement de l'emploi. Donc on essaie qu'on accompagne dans la mise en situation de travail et qu'on essaye aussi de valoriser par l'acquisition de certificats de qualification professionnelle pour leur remettre un peu le pied à l'étrier du travail, mais surtout consolider ce que je disais tout à l'heure, l'estime d'elles-mêmes. Donc consolider aussi d'abord le rapport qu'elles ont à elles-mêmes, l'estime d'elle-même pour pouvoir effectivement s'engager dans des processus comme ça. Et donc là, on participe d'un programme international donc qui est comparatif, donc pour essayer de justement de modéliser l'entreprise sociale apprenante dans le monde, et donc on doit aboutir en 2018 normalement.
On suivra ça avec intérêt. Est-ce que ces nouveaux modèles finalement ne portent-ils pas en germe des réponses ou des éléments de solution à la situation compliquée qu'on connaît aujourd'hui, que nos économies contemporaines connaissent? Est-ce que le changement de paradigme, pour utiliser un terme un peu pompeux mais tout de même à la mode, ne passe pas aussi par ce type d'économie?
Alors, d'une part, là où on en est arrivé aujourd'hui, c'est que l'entreprise sociale apprenante, en fait, elle combine les dimensions sociales, économiques, de gouvernance et de territoire dont on parlait tout à l'heure. Donc, le territoire est très important. Et puis, d'autre part, je pense que on est au moment d'une articulation entre l'économie sociale et solidaire, l'économie publique, puisqu'il y a des agréments, on est sur des dynamiques sociales locales, etc. Donc la relation aussi aux collectivités locales. Et puis l'économie privée lucrative, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de ces individus ont pour ambition, et l'ambition aussi, c'est qu'ils puissent être recrutés dans les entreprises dites classiques en tant que telles. Donc en fait, on fait le lien entre les trois économies, publique, privée lucrative, privée non lucrative, grâce, si on prend premier enseignement de nos travaux, grâce à ces entreprises sociales apprenantes, et ce, quel que soit le statut juridique qu'il y a derrière.
Alors, on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire, je crois, ou de la semaine, enfin, il y a une période.
Ça va arriver, c'est le mois de novembre.
C'est en novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que c'est une cause un peu perdue, il faut y consacrer comme un mois, une période pour qu'on y pense, alors que finalement, il faudrait qu'on y pense quotidiennement.
Oui, mais c'est vraiment nécessaire d'avoir non seulement la semaine de l'épargne solidaire avec Finansol, dont je suis le porte-parole pour la Bretagne et Pays de la Loire d'ailleurs, et aussi du mois de l'économie sociale et solidaire, puisque plus on va aller vers la société, plus on va aller vers les entreprises, et plus on va faire connaître et reconnaître le secteur de l'économie sociale et solidaire tel qu'il mérite de l'être.
Eh bien, écoutez, en tout cas, vous en parlez avec beaucoup de conviction et de précision. Merci à vous, Pascal Glemin, d'avoir répondu à nos questions avec Christian Lebarde de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, au micro de Canal B. Voilà, c'est la fin déjà de Chercheurs en Ville. Bonne écoute et à bientôt.